Donc si vous avez des questions pendant le cours, laissez-les pour la fin, parce que nous sommes en train du tout. Okay. Donc, comme Shakespeare. Et. Voilà. Alors, je vous demanderai de lire attentivement les deux chapitres 15 et 16 dans Brachit. Et je vais, en introduction très brève, dire l'essentiel qui concerne notre sujet. Et vous verrez le thème suivant, c'est que. La promesse faite à Abraham qu'il aura une descendance à partir de lui-même, et vous avez les versets qui concernent Eliezer, lorsque Abraham demande si peut-être cette promesse se réalisera à travers Eliezer, qui n'était pas sa propre descendance, mais un disciple. Cette identité d'Eliezer, c'est une dimension importante de l'histoire de Avot, mais je la signale en passant. Puis finalement, il y a une promesse explicite que c'est Mimeraïch Yetzeu, que la descendance promise viendra d'Abraham lui-même. Et ensuite, au chapitre 16, vous verrez qu'il y a un fléchissement de la foi ou de la confiance, il me semble que nous en avons parlé la semaine dernière assez suffisamment, et que Abraham. Semble considérer que cette promesse se réalise à travers Ishmaël, puisqu'il n'y a pas de possibilité d'enfantement du côté de Sarah encore. Et en fin de compte, lorsque nous arrivons au chapitre 21, que nous allons commencer à étudier aujourd'hui, nous voyons qu'entre-temps, il y a eu évidemment confirmation au moment du changement de nom de Sarah en Sarah, que la fécondité reviendra à Sarah. Et nous sommes donc dans la situation suivante, qu'entre-temps Ishmaël est né et c'est irréversible, et que finalement, lorsque la maturation de l'identité d'Abraham et de Sarah sont suffisantes, cette promesse peut enfin se réaliser, et Sarah va enfanter l'enfant qui est nommé Yitzhak. Alors nous allons prendre le récit à partir du chapitre 21. Vous retiendrez en tout cas, malgré tout, qu'entre-temps, Abraham a changé de nom, il est nommé Abraham, mais surtout, il y a eu entre-temps la circoncision d'Abraham. Il sera né après la circoncision d'Abraham. Et parallèlement, le nom de Sarah a changé en Sarah. Ceci demanderait d'être étudié un peu plus en détail, peut-être nous aurons l'occasion de le revenir. En tout cas, je voudrais arriver au thème central de ce chapitre 21. Donc, Vehachem, Pakad et Sarah. Et c'est le verset qui indique que Sarah est Nifkedet. Il faudrait passer un long temps pour essayer d'exprimer en français les différents sens du mot de Pakod qui est employé ici. Mais j'utilise le dernier que je viens de citer, Nifkedet, et elle est enceinte. Elle est féconde. Alors verset 2, Vatara, elle conçut, Vatelet Sarah le Abraham, et Sarah enfanta à Abraham, Ben Liskunav, un fils au temps de sa vieillesse. La Moed, à l'époque, Hachem Liberoto Elohim, que c'est la révélation précédente que Dieu lui avait promise, Taret Haya, puisque la révélation au début de Vayera, qui vient confirmer que cette naissance est enfin possible, eh bien. A été donné l'année précédente, plus exactement 9 mois avant, puisque c'était le temps de la fécondation. Baïkra Abraham et Shem Beno Anoladlo, et Abraham nomma le nom de son fils qui lui a été enfanté, Asher Yaldalo Sarah Yitzhak, et que Sarah lui avait enfanté à lui, nomma ce nom Yitzhak. Vous voyez, chaque détail de la formulation du verset est important. Je crois qu'en schématisant, il faut mettre en évidence le fait que, alors que Ishmaël est jusque-là nommé fils de Hagar, que Hagar a enfanté à Abraham, Yitzhak, lui, est nommé fils d'Abraham, que Sarah a enfanté à Abraham. Cette distinction est importante, nous allons le retrouver certainement. Vayamol Abraham et Yitzhak Beno, et Abraham circoncit Yitzhak son fils, Ben Shemonat Yamim, à l'âge de 8 jours, Kasher Tzivaot Elokim, comme Dieu le lui avait ordonné. Ben Abraham Ben Meashana, et Abraham était âgé de 100 ans, Beil Valetlo et Yitzhak Beno, lorsque lui fut enfanté Yitzhak son fils. Vatomer Sarah, et Sarah dit, Tzrok Asali Elokim, c'est un rire que Dieu a fait pour moi. Et remarquez donc toute cette atmosphère de rire qui entoure la naissance d'Isaac. Dès l'origine, il y a le rire d'Abraham, il y a le rire de Sarah. Il y a, comme nous allons voir immédiatement, ça sera le sujet essentiel, le rire d'Ishmaël. Et ce que va dire Sarah dans le verset suivant, tout le monde rit autour de la naissance d'Yitzhak. Et le nom de Yitzhak, c'est le rire au futur. Yitzhak, il rira. Ici, Kolachomer Itzachakli, tout celui qui entendra cette nouvelle, que en fin de compte sera connu comme incapable d'enfanter, au point que la suite dans l'histoire pour l'identité d'Abraham passera par une identité étrangère, par une matrice étrangère. La Torah a bien précisé, c'était en compétition. Sarai, à ce temps-là, la femme d'Abraham, de cette famille des Hébreux sortis d'Ur-Kasdim, alors que Agar est appelée Agar Amitzrit, Agar l'Égyptienne. Je crois que c'est cela essentiellement que nous avons étudié la semaine dernière, cette option qui consiste à dévier l'avenir de cette identité d'Israël qui se prépare à partir de la famille d'Abraham, de le dévier vers une matrice d'engendrement, puis la société égyptienne, puisque selon le Midrash, Agar était la fille du Pharaon. Lorsque le premier voyage de Sarah et d'Abraham, tout au début, en Égypte, Abraham sort d'Égypte comblé de présents, d'honneurs, et en particulier le Pharaon a donné comme servante à Agar sa propre fille, comme servante à Sarah, sa propre fille Agar, expliquera le Midrash. Derrière ce Midrash, il y a un thème extrêmement important, c'est que la fécondité d'Abraham pourrait réussir à travers la société égyptienne comme matrice d'engendrement, c'est Ishmaël. Mais la promesse concernée l'identité hébraïque elle-même, telle qu'elle commence à émerger de la clandestinité d'Ur-Kasdim, qui est représentée par Sarah. Sarah, c'est la matrice hébraïque, alors que Agar, c'est la matrice égyptienne. Et cette même potentialité de fécondité pour la bénédiction pour toutes les familles de la terre, comme dit la Bible, représentée par Abraham, peut avoir deux histoires, celle d'Ishmaël ou celle d'Yitzhak, et c'est cette compétition que nous allons suivre. Je crois que j'avais signalé, je ne sais pas si c'est ici, en relation à cela, l'option de Moïse, beaucoup plus tard, qui lui aussi aurait pu faire basculer l'histoire à travers l'Égypte ou à travers Israël, et son choix a fait basculer l'histoire à travers Israël. Là, vous le trouverez dans le début de Shemot, lorsque Moïse décide de tuer l'Égyptien et de faire vivre l'Hébreu. Je ne reviens pas trop en détail, ça me prendra trop de temps, mais simplement il faut signaler ce parallèle. Alors je continue. Au verset 7, Vatomer et elle dit, Mi Milel et Abraham, qui pourra dire, sous-entendu la louange d'Abraham, Enika Banim Sarah, que Sarah a enfanté, a allaité des enfants. Qui a la tib ben Mishkunav, car j'ai enfanté un fils à sa vieillesse. Je voudrais une petite parenthèse sur ce pluriel de Enika Banim Sarah. Et le vous verrez vous-même le commentaire de Rashi et de Midrash qu'il cite. Il y a un épisode précédent qui est relié à cela. C'est que lorsque, dans un des voyages précédents, Abimelech avait pris Sarah, pensant qu'elle était la sœur d'Abraham. Je ne sais pas si nous avons étudié ce thème. Lorsque le patriarche dit de sa femme qu'elle est sa sœur, nous aurons l'occasion de l'étudier dans l'histoire de Yitzhak. Ça revient une troisième fois, ça revient deux fois dans l'histoire d'Abraham, une fois en Égypte et une fois chez Abimelech. C'est un thème extrêmement important. Rappelez-moi que nous l'étudions quand nous arrivons à la généalogie de Yitzhak. Alors, la civilisation dans laquelle on n'arrive pas à comprendre ce que veut dire le patriarche, que la femme doit être considérée comme la sœur, devient stérile. Et toute cette civilisation est frappée de stérilité. Vous trouverez ça dans le texte. Et au moment où Abraham a prié pour que la stérilité de cette civilisation cesse, après le plaidoyer d'Abimelech, alors Sarah a pu enfanter. Un premier thème qui est relié à ce que nous sommes en train de dire ici. En fait, le Midrash va dire que toutes les princesses apportaient à Sarah leurs propres enfants pour que Sarah les allaite. Je crois qu'on peut analyser cet enseignement à différents niveaux, mais le niveau qui me frappe par rapport au sujet est le suivant. Parce que le Midrash indique que tout le monde faisait comme si Sarah n'avait pas été fécondée par Abraham et par Abimelech. C'est ce thème que chaque fois que les historiens des cultures, des civilisations, parlent de la culture d'Israël, de façon très systématique et tellement systématique que cela en devient suspect, ils cherchent les sources de la culture d'Israël ailleurs. Sarah n'a pas pu enfanter d'Abraham, elle enfante d'Abimelech. Il n'y a rien d'original dans la culture hébraïque, ce sont des emprunts faits aux civilisations du temps. Ça pourrait être expliqué de différentes manières, mais à quoi je fais allusion. C'est frappant, c'est tellement systématique que c'est non seulement suspect, comme j'ai dit tout à l'heure, mais que c'est inquiétant. Ça ressemble beaucoup à ce phénomène d'opinion publique unanime chez les goïms dès qu'il y a un fait qui frappe l'histoire d'Israël. Et en général, c'est négatif. Vous voyez à quoi je fais allusion. Il y a d'ailleurs, je pense, un manque d'humour dans ce caractère systématique et exagéré et accumulé. C'est un peu ce que le Midrash, que c'est traché, nous signale. En fait, Sarah a allaité les fils de toutes les princesses, ça veut dire qu'Israël a fécondé toutes les civilisations, mais l'opinion publique des civilisations prétend l'inverse, que Israël n'est pas le fils d'Abraham et d'Abimelech. Est-ce que c'est clair, c'est la manière dont je dis ? Bien, alors on avance. Vayas Abraham Mishte Gadol, Beyom Higamel et Titra. Et Abraham a fait un grand festin le jour où Yitzhak a été sevré. C'est-à-dire le jour où Yitzhak devient une personne autonome, le signe étant l'autonomie de la nourriture, il devient une conscience pour lui-même. Le jour du sevrage, il y a un grand festin pour habiliter le fait que Yitzhak existe pour lui-même. Et c'est là que nous rencontrons la référence la plus précise du sujet. Batéré, Sarah, et Ben Hagar Amitrit, et Sarah vit le fils de Hagar l'Égyptienne, Asher Yaldale Abraham, qu'elle avait, elle, Hagar l'Égyptienne, enfanté Abraham. Vous voyez la différence de formulation lorsqu'il s'agit du fils de Sarah et du fils de Hagar. Metzachek, en train de rire. Voilà un autre rire qui entoure le début de l'histoire de Yitzhak. Je reviendrai sur ce verset. Je veux simplement vous indiquer que dans ce verset, il semble que Ishmaël est nommé fils d'Abraham, ne serait-ce que par de manière détournée à travers Agar, puisque le texte dit Et ben Hagar Amitrit, Asher Yalda le Abraham. Alors que jusque-là, cela va jouer un rôle dans la contestation de l'héritage, jusque-là, l'identification d'Ishmaël est Ben Abraham. La réponse la plus simple, c'est que le texte parle pour le présent qu'il décrit. C'est-à-dire, entre-temps, Abraham a changé de nom et est devenu Abraham. À ce moment du texte, son nom est Abraham, c'est la raison pour laquelle le verset dit que Hagar l'Égyptienne avait enfanté Abraham. Mais en fait, ce n'est qu'à la fin de tout ce récit que Ishmaël sera identifié comme fils d'Abraham lorsqu'il aura fait Tshuva. Et j'espère qu'encore aujourd'hui, il arrivera à faire Tshuva tout à l'heure. Enfin, dans le texte, bien sûr. Alors, ce que je voudrais mettre en évidence, c'est les deux mots qui terminent le verset, 9, que nous sommes en train de lire. Le mot qui termine le verset 9, c'est le mot de Metzachek, qui est imputé à Ishmaël. Je relis le verset en hébreu. Vatere Sarah et Ben Hagar Amitrit, Asher Yalda l'Abraham, Metzachek. Ils ont maintenant le verset 10. Va tomber les Abraham, et elle dit à Abraham, Gare Shahama Azot, renvoie, dans la mode des Girushin aujourd'hui, renvoie cette servante, Ben Bena et son fils, qui l'oirache, Bena Mahazot, car n'héritera pas le fils de cette servante, Imbeni avec mon fils, Imitzrak avec Yitzrak. Alors nous allons étudier le rapprochement de ces deux mots de la fin de ces deux versets. Ishmaël est Metzachek, Yitzrak, c'est au futur. Et avant d'arriver à cette analyse, je veux mettre en évidence l'étonnement du récit. C'est un récit assez invraisemblable si on ne connaît pas tout le contexte et la suite. Voici Yitzrak avait l'âge de 3 ans, Ishmaël avait 18 ans, je pense, enfin, plus jeune, 16 ans. Et puis, voilà ce qui se passe, au moment d'une fête, Sarah voit le fils de Hagar rire. Et à cause de ce rire, elle demande à Abraham de renvoyer et Hagar et Ishmaël. Mais ça va être encore hypertrophié par la manière dont les Hachamim de la Gemara interprètent le contenu de ce rire. La question que nous allons nous poser, c'est qu'est-ce que Sarah a vu dans le rire de cet enfant pour déclencher, à partir de cet événement, la séparation entre Ishmaël et Yitzhak et tout ce que cela impliquera dans l'histoire postérieure, jusqu'à notre clan y compris. Mais c'est encore un exemple du fait que nous sommes tellement familiers avec le récit biblique que parfois il nous est difficile de percevoir l'étonnement auquel le texte nous oblige. C'est étonnant. On ne peut pas imputer à des tzadikim comme Abraham et Sarah, à cet âge, à ce niveau d'envergure et de profil de tzadik, des conduites, banales. C'est donc vulgaire. C'est donc qu'il s'agit là de choses importantes, et c'est ce qu'ont perçu les Chachamim de Midrash, c'est dans une Tosefta que je vais vous dire. Alors à propos de ce mot de Metzachek, et nous verrons que toute la compétition est entre l'homme du rire au présent et l'homme du rire au futur. Et cette séparation est la séparation de deux manières d'être fils d'Abraham, de deux manières d'être homme, radicalement séparés par l'intervention de Sarah, comme nous le verrons. C'est à ce propos que le Talmud va indiquer que lorsqu'il y a une intervention dans cette sélection d'identité, ce sont les mères, les femmes, donc les mères, qui ont un sens prophétique plus fort que les pères eux-mêmes, que les avots eux-mêmes. Je vous donnerai cette référence en passant. Alors, à propos de ce terme de Metzaché, Tania, on enseigne. Ça se trouve dans Sota, si je me souviens bien. Oui, dans Sota, chapitre 6. Alors, on enseigne. Rabbi Shimon ben Yochai, Omer. Rabbi Shimon ben Yochai avait dit, il a cité l'enseignement de ses maîtres, Darash Rabbi Akiva. Premier enseignement de Rabbi Akiva. Enzrok Amur Kan et la Abodazara. Le rire dont il est parlé ici, et il s'agit du rire d'Ishmaël, le rire au présent, c'est l'idolâtrie. C'est un rire qui accompagne les conduites de l'idolâtrie. Vous percevez tout de suite la question, comment voir cela dans le rire d'Ishmaël, enfant, dans la maison d'Abraham. Et un verset est cité, Vayakumu Letzaret. C'est-à-dire le texte du Mikra lui-même fait foi que l'idolâtrie s'accompagne d'un rituel de rire. Rabbi Eliezer Omer, Zegilu Arayot. Rabbi Eliezer, c'est la débauche. Et un verset est cité, Baelai, Aïved Aïvri, Letzachek Bi. Un verset dans l'histoire de la femme de Potiphar. Rabbi Yoshua Omer, Zoshichud Damim, c'est le meurtre. Et un verset est cité aussi, Yakumuna Neharim, Visachaku, Vechabo, Vetzare. Et dans Shmuel. Voilà donc ce que cite Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans ce rire, Sarah a vu, on va ajouter, par un sens prophétique, quelque chose de très important, de très grave. Elle a vu que cet enfant, Ishmaël, a une identité en germe, à la racine, et ça se dévoile dans son rire, était un rachat absolu. Suivant l'expérience de chacune de ces chiffres d'enseignement, l'un dira, le mal absolu, c'est l'arbre d'Azara, l'autre va dire, le mal absolu, c'est Shfichut Damim, le mal absolu, c'est Dieu Arayot. Et voilà ce que Sarah a vu dans le Metzachek, le rire au présent, et elle demande de séparer l'homme qui est véhicule du rire au présent de celui qui est véhicule du rire au futur, et de quoi s'agit-il. J'espère qu'on a tout de suite monté de degré dans la lecture du texte. Il ne s'agit plus du tout d'une anecdote d'une mère jalouse de l'enfant de la rivale qui rit et se moque de son propre fils. Les Chachamim ont vu là quelque chose de beaucoup plus grave et beaucoup plus important. Avant d'aller plus loin, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai va continuer son enseignement, alors nous retrouvons là un plan, une structure qui nous est familière à travers surtout l'enseignement du Maharal. C'est que les vertus et donc corollairement les fautes se distribuent dans trois dimensions dans l'enseignement de la Torah. Ben Adam la Makom, Ben Adam la Havero, Ben Adam la Hatzro. Et nous retrouvons là la définition des fautes principales, fondamentales, qui font qu'une faute est une faute. Ben Adam la Makom, la faute c'est Avodah Zara. Ben Adam la Havero, la faute c'est Shfirut Damim. Ben Adam la Hatzro, la faute c'est Gilou Arayot. C'est suffisamment clair ou que je traduis les écrits? C'est clair pour tout le monde. Okay? Par conséquent, il n'y a pas du tout d'enseignement, disons, d'arbitraire dans le choix de ce que les Chachamim ont dit. Ils voulaient dire ce que Sarah a vu, c'est qu'il y a là un enfant qui est un rachat absolu en germe. Et comment ça se perçoit dans son rire. Et ici, il faudrait faire une analyse proprement phénoménologique des différents types de rire. Nous verrons qu'au niveau du pshat, le rire de Ishmaël ici est évidemment un rire de dérision, se moquer de Yitzhak. Yitzhak croit qu'il sera le fils de l'héritage, qu'il est le premier-né d'Abraham. En réalité, dit Ishmaël, c'est moi, Ishmaël, qui sera héritier. C'est un rire qui consiste à se moquer de, un rire, disons, de dérision. Mais lorsqu'on est familier à cette conduite, et là, il faudrait faire une analyse, comme j'ai dit, de phénoménologie. Aux conduites de ce type de rire, et on s'aperçoit que dans tous les mythes antiques, eh bien, ces orgies de la débauche, ou de l'idolâtrie, ou du meurtre, s'accompagnent de rires caractéristiques. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le rire? Pour aller très vite, je vais vous donner la réponse, c'est un problème simple. Qu'est-ce que le rire exprime? Eh bien, je crois qu'on pourrait utiliser un enseignement qui a été mis en forme par Bergson à l'origine, et qui est l'enseignement suivant. Et je le modifie d'après les données de la Torah. Mais lorsque la liberté humaine réussit, alors il y a expérience de joie. Lorsque elle est en échec, il y a une expérience de tristesse. Et le rire exprime la réussite de la liberté, et l'émotion de joie qui l'accompagne peut se moduler en différentes harmoniques, si on peut dire. Il y a sept formes de rire qui entourent Yitzhak. C'est en particulier ce rire de triomphe, d'enthousiasme. Le rire s'attache toujours à la Gemoura, d'enthousiasme, du triomphe, de la liberté qui a réussi. Alors que lorsque la conduite humaine est mise en échec, ce qui est perçu par la conscience, c'est une expérience de tristesse, et tous les niveaux de la tristesse, ça va jusqu'au dikaon absolu, la dépression totale, et ce sont les larmes qui apparaissent. Et donc, nous avons deux types de rire en compétition. Le rire au présent, et le rire au futur, et c'est cela surtout qu'il faudra que nous essayons de comprendre le plus profondément. Mais, je le dirais de façon assez simple, en m'appuyant sur des textes de la Gemara d'ailleurs, en particulier de la fin du premier chapitre de Brachot, sur le verset « Az imale srok pinu ». Alors seulement notre bouche sera emplie de rire, dans l'enseignement de Rish Lakish, qui cite, il me semble, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on va vérifier tout à l'heure, et qui dit, il cite Rabbi Yochanan, lequel cite Rabbi Shimon Bar Yochai, et qui dit « Assur les male srok pinu barolamazé ». Il est interdit de rire et que cela d'emplir sa bouche de rire dans ce monde-ci. D'après le verset qui dit « Az imale sropi », alors seulement notre bouche sera emplie de rire. La Gemara continue, nous l'avons détaillé tout à l'heure peut-être. Cela veut dire ceci. Tant que ce monde est tel qu'il est, bien et mal à la fois, une expérience de satisfaction totale et que cela est l'indice qu'il s'agit d'un rachat. Parce que tant qu'il y a le rare dans le monde, être satisfait absolument de l'état du monde, le rire au présent, c'est l'indice qu'on a une certaine complaisance, une certaine complicité avec l'état du monde qui consiste à être et bien et mal. Est-ce que c'est suffisamment clair? Alors, c'est pourquoi la Gemara enseigne, dans cet enseignement que je viens de vous citer, le rire n'est permis vraiment que dans les Yemot HaMashiach. Tant qu'on est dans le Olam HaZeh, il y a une retenue du rire, parce que le rire est que cela, c'est encore une fois l'indice d'une identité, d'un nefesh de Bifrinash Olam HaZeh, Tov Vera à la fois. Alors, on va procéder par approximations successives jusqu'à arriver à définir la distinction entre l'expérience de religiosité. Je reprends l'expérience de religiosité propre à Ishmaël, fils d'Abraham, et celle propre à Yitzhak, fils d'Abraham. Il y a quelque chose de commun, c'est le rire, c'est-à-dire la satisfaction de l'expérience de la Géoula, meilleure. Mais avec une différence importante, l'un est branché sur un présent absolu, alors que dans l'autre, il y a une retenue en vue d'un avenir. Il y a d'ailleurs, dans la Masoret Brachot aussi, un enseignement qui m'a beaucoup frappé, et qu'on peut relier à cela. La Masoret Brachot dit ceci, je ne sais pas si je vous ai cité ça une fois, peut-être, que celui qui reste une semaine sans rêver est appelé Rachar. Alors il faut d'abord dire qu'il ne faut jamais prendre ces enseignements pour des identifications personnelles. Il est possible que vous soyez dans ce cas. En général, tout le monde rêve. Seulement, au réveil, on se souvient qu'on a rêvé ou on ne se souvient pas. Ne vous prenez pas pour des rechaïm si vous ne vous souvenez pas que vous avez rêvé. Mais voilà ce que veut dire cette Gemara. Vous voyez à quel point ça vient en porte-à-faux avec les intuitions de la culture occidentale qui parlera du sommeil du juste, que le juste a un sommeil paisible. Alors, selon cette Gemara, celui qui a un sommeil paisible, c'est sûrement qu'il est rachar. Pourquoi? Oui, c'est tout le contraire. Eh bien, parce que, est-ce qu'on peut avoir un sommeil paisible tant que le monde est dans l'état où il est? C'est-à-dire, celui qui peut passer une semaine, c'est le rythme minimum du temps, sans avoir des cauchemars, étant donné l'état du monde, c'est qu'il est sûrement rachat. Voilà, c'est assez parallèle. Est-ce que c'est clair? Cette Gemara est donc renforcée par là. Az, il m'a laissé repris. Nous, et nous verrons comment dit la Gemara par la suite du verset des psaumes. Et chez Yomru Bagoyim, Erdil Hashem, la Asodi Imel. Donc, je reviens donc au problème. Il y a une caractéristique de la religiosité, de la conscience musulmane que je voudrais vous décrire. Il y a d'abord la reconnaissance que ce que l'on reçoit comme jouissance de l'existence vient du Créateur. Et il y a là une piété authentique et qui doit être caractérisée comme telle. Le musulman est un croyant, je parle du musulman pieux, en fait, du véritable musulman. Le musulman est un croyant qui reconnaît que tout ce qui lui vient de la vie, lui vient d'un créateur qu'il reconnaît comme créateur. En cela, il est fils d'Abraham. Seulement, la deuxième dimension, c'est la recherche de la jouissance dans l'immédiat. C'est un peu difficile de décrire la typologie d'une autre manière d'être homme qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire, on a toujours tendance, par analogie, à établir des comparaisons injustifiées. La conscience religieuse musulmane ne fonctionne pas à la manière de la conscience religieuse juive. Quelle que soit cette première analogie de départ. C'est-à-dire, du point de vue de la piété du croyant qui sait que ce qu'il reçoit comme bénédiction, le mot de bracha existe aussi en arabe, cela vient du Créateur, il y a analogie absolue, il y a rire. Mais cette grande différence de la jouissance du monde tel qu'il est dans le moment présent qui est corollaire du fait que le souci de la moralité ne fait pas partie de l'expérience religieuse. Et j'en disais un peu plus tout à l'heure. Alors que pour Yitzhak, il est le fils du rire, comme en tant que fils d'Abraham, mais le rire vraiment total ne lui sera permis que dans l'avenir, lorsque le monde sera arrivé dans son tikkun. Et je crois que l'explication la plus simple, la plus élémentaire, c'est celle que j'ai donnée dans l'analyse précédente. Tant que l'état du monde est l'état de Tovara, le rire et que cela est interdit. Et c'est pourquoi, lorsque la Gemara analyse les dimensions de l'expérience du sentiment religieux pendant la prière, elle établit qu'il doit y avoir une émotion double et complémentaire, à la fois Simcha et Ira. Ceci, vous le trouvez dans, la première partie du septième chapitre de la Maseret Brachot. La Mishnah établit qu'on n'a le droit de prier que si on est dans un état de Kovet Rosh. Kovet Rosh, ça signifie le sérieux nécessaire pour la dignité de l'état de prière. Or, l'état de prière, c'est l'état dans lequel on se trouve vraiment devant Dieu. En fait, on est constamment devant Dieu, mais caché. Face à face, c'est le moment de la prière. Alors, le fait pour la Gemara de rechercher la nature de cette émotion de Kovet Rosh indique que ce qu'elle cherche là, c'est la définition de ce qu'on pourrait appeler en français le sentiment religieux authentique. Alors, elle établit finalement qu'on apprend d'un verset qui dit « Evdu et Hashem Beira Vegilu Bilada » c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait « Eira et Sibra ». Et ça se réfère à l'analyse de tout à l'heure, il y a crainte parce que l'on est devant Dieu et il y a joie parce que l'on est devant Dieu. Ce sont les deux, comment dire, les deux dimensions du sentiment de la liberté. Puisque je suis libre, je dois avoir peur parce que ma liberté risque d'échouer dans la faute. Mais puisque je suis libre, je dois être dans la joie puisque ma liberté peut réussir dans la vertu. Et donc c'est dans cette atmosphère de Kovet Rosh ainsi définie par la Gemara que se trouve le véritable sentiment religieux dans le monde tel qu'il est. Je pourrais l'exprimer autrement. Simcha parce que il y aura Olam Haba, mais Ira parce que nous sommes dans Olam Hazeh. Ou Simcha parce que c'est Dieu qui me juge, mais Ira parce que c'est Dieu qui me juge. Est-ce que c'est clair du point de vue de Et c'est donc, et tout de suite après, la Sougia cite des cas où des Talmidei Chachamim étaient uniquement dans la joie pendant la prière, leur maître intervient, pour citer le verset, avec Gilou Bilad active, parce que la joie, et que la joie, tant que le monde n'est pas ce qu'il devrait être, est une expérience dangereuse. On peut donc le relier à l'analyse que nous avons eue, qu'on pourrait avoir de différentes manières d'ailleurs, mais je crois que le thème principal, c'est essentiel est le suivant, la différence de nature entre le rire au présent qui indique qu'on peut être rachard de façon absolue tout en reconnaissant le créateur, rire donc le créateur, mais puisque c'est au présent, rachard, parce qu'il y a encore une fois complaisance, complicité avec l'état du monde, la faute par excellence étant ses conduites décrites par les Chachamim, et d'autre part le rire au futur. Alors, il est important de voir que toute cette compétition d'identité entre Ishmaël et Yitzhak est immédiatement reliée à la question de l'héritage d'Abraham. Je reprends le verset 10. « Batomer le Abraham, garesh ha'amazot, ved bena, kilo irash ben ha'amazot, im beni, im Yitzhak. » Je voudrais vous lire ce que dit Rashi à ce sujet. Prenez sur le verset 10, Im Beni, Im Yitzhak. Mitchuva Sarah, qui lui ira, Benama Azot, Im Beni, de la réponse de Sarah, qui dit, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, à Talomel, nous apprenons, chez Aya, Merib, Im Yitzhak, qu'il se querellait avec Yitzhak, à la Yerusha, au sujet de l'héritage, Veomer, Ani Bechor, Venotel, Pishnaï. C'est moi qui suis l'aîné, et j'aurai deux parts à l'héritage, suivant le rôle de l'aîné. Un problème très vaste, nous avons déjà peut-être vu dans les chapitres précédents, que le Midrash a établi que Ishmaël n'était même pas l'aîné de Hagar, puisqu'il est né comme un deuxième enfant de Hagar. Je ne sais pas si vous avez étudié ça, non ? Alors je vais vous montrer dans le texte immédiatement, mais je finirai. Bon, ça c'est la fin de Rashi. Donc, Rashi explique du sens même de l'intervention de Sarah, qui dit car cet enfant n'héritera pas avec le mien, on apprend que la querelle portait sur l'héritage et que Ishmaël moquait Yitzhak au sujet de l'héritage. Vous voyez donc quelle est la portée, l'objet de cette différenciation entre ces deux enfants. Je vais donner tout de suite la référence concernant ce que je viens de vous dire. Une minute. Alors, c'est à la naissance d'Ishmaël. Ça va être le chapitre 15. Voilà. Vous prenez le chapitre 16. Voilà. Alors, Agar était enceinte déjà au verset 4. Vayabo el Agar vatahar vatere ki harata vatekal gevirta benea. Au verset 4, on nous apprend que Agar était enceinte, elle se rebelle contre Sarah. Sarah obtient que Abraham la renvoie, et ensuite, lorsque dans le désert un ange se révèle à Agar, vous êtes au verset 11, Vayomerla, et l'ange lui dit, Malach Hashem, Inach Hara, voici, tu vas enfanter Veyolat Ben, et tu enfanteras un fils, et tu vas concevoir, pardon, et tu enfanteras un fils, Vekarat Shemo Ishmael, tu nommeras Ishmael. Alors c'est clair, ça veut dire qu'entre-temps, elle avait avorté de son premier enfant. Et que Abraham est né d'une deuxième Stéphane. Et que Ishmael est né d'une deuxième conception. Je vais vérifier, il me semble d'ailleurs que Archie le signale. Okay. Voilà, vous avez Rachid sur la version. Top.
J'ai ta chouvie.
Non. Ça veut dire qu'en fait, Ishmaël, selon notre récit, n'est même pas l'aîné de Agar. Et par conséquent, à plus forte raison pas, celui d'Abraham. Voilà, je crois que je suis peut-être arrivé un peu rapidement, mais quand même suffisamment, à indiquer que les raisons de la séparation entre Ishmaël et Yitzhak sont importantes, quelle que soit cette proximité d'identité. Je reprends donc le verset de l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai continue, après avoir cité ses trois maîtres, Rabbi Akiva, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, et il dit, Vani Omer, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui parle, et moi je dis, Chas Veshalom, Dieu préserve, Sheyie Bebeto Sheloto Tzadik, qu'il y ait dans la maison d'un tel juste Abraham, Misha Osekem, quelqu'un qui agisse ainsi. C'est facile de comprendre l'intervention de Rabbi Shimon Bar Yochai. On vient d'entendre une chose énorme. Dans la maison d'Abraham, un enfant qui présente des signes plus qu'avant-coureurs de la conduite de l'idolâtrie, du meurtre, de la débauche. Dans la maison d'Abraham, un fils d'Abraham, quelle que soit sa mère d'ailleurs, et là, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Enzrogze Ela Yerusha. Ce rire, c'est un rire de compétition sur l'héritage, comme on a vu avec Rashi. Et Rabbi Shimon Bar Yochai se permet d'ajouter Shaya Ishmael, Mesachek, Veomer, Ani Bechor, et Antel Shnechalakim, comme nous avons vu de Rashi, mais Rabbi Shimon Bar Yochai ajoute Veroe Ani et Devaraï, Midibre Rabbi Akiva. Et je préfère mes paroles que les paroles de Rabbi Akiva, de Rabbi Yoshua, étonnant. Okay. Alors, je crois qu'il nous suffit de réfléchir au sens de l'expression Bebeto Sheloto Tzadik. Qu'est-ce que ça veut dire Ishmaël dans la maison de son père? Et il y a donc deux situations. La situation où Ishmaël n'est pas dans la maison de son père, et pour Rabbi Shimon Bar Yochai, l'enseignement de ses maîtres vont de soi, quand Ishmaël n'est pas dans la maison de son père, il est idolâtre, débauché, meurtrier. Mais, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, quand Ishmaël est dans la maison de son père, il n'est pas idolâtre, débauché, meurtrier, mais il est anti-juif. Enfin, c'est le rire contre Isaac. Est-ce que c'est clair, je veux dire? Alors, que signifie cette indication Ishmaël dans la maison de son père? Qui pourrait donner une réponse? Oui, je me suis borné à vous citer l'expression de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Midrash lui-même. Bon, je repose la question autrement, de façon plus générale. Quelle serait cette distinction d'identité entre Ishmaël, pas dans la maison de son père, et Ishmaël dans la maison de son père? À quoi ça vous fait penser?
Ishmaël,
celui-là. Un à la fois, parce que j'ai que deux oreilles.
La semaine dernière, je vous ai donné la question, et j'ai entendu par rapport à l'identité d'Abraham, l'identité d'Abraham. Est-ce qu'il n'y a aucun rapport avec...
Attends, comme tu m'as dit... C'est là, je crois que vous avez étudié la question de la différence entre la clipa et le péri. Ishmaël représente une clipa qui est sortie d'Abraham. Au temps où il s'appelait encore Abraham, c'est ça le point de la réponse. Alors que le péri, mais clipa qu'on démette la péri, le péri c'est Yitzhak qui vient d'Abraham. Bon, c'est Bimkomon Isha. Cela reste à son niveau. Ici, c'est une question différente. C'est-à-dire, ce même Ishmaël, fils d'Abraham, quelle différence peut-on assigner à son identité dans ces deux situations différentes, dans la maison de son père, en dehors de la maison de son père? Et vous voyez comment Rabbi Shimon Bar Yochai dit « Bebeto sheloto tzadik Abraham ». Bon, bien c'est là qu'il faut comprendre le rôle de l'islam dans l'histoire d'Ishmaël. Vous savez que l'apparition de l'islam dans l'histoire d'Ishmaël est très tardive. Ça fait 14 siècles seulement que l'islam existe. Avant cela, il y a la descendance d'Ishmaël, mais qui n'était pas du tout musulmane. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, du point de vue d'une typologie ethnologique schématique, il y a une différence entre un arabe et un musulman. Un arabe peut ne pas être musulman. Et d'ailleurs, tous les musulmans ne sont pas forcément des arabes. Je veux dire, avant l'apparition de l'islam, Ishmaël était renégat vis-à-vis des traditions de son père Abraham lui-même. Il était devenu païen, idolâtre, débauché, meurtrier. C'était l'identité, comment dire, ethnique fondamentale de cette identité Ishmaël avant l'islam. L'islam représente une chouva d'Ishmaël par rapport aux traditions d'Abraham. C'est-à-dire, Mahomet a réussi à remettre Ishmaël dans la maison de son père Abraham. Ishmaël n'est pas Israël, mais un musulman authentique, pieux, n'est pas débauché, n'est pas idolâtre, n'est pas meurtrier. Et qu'est-ce qu'il est dans le rire au présent par rapport à Yitzhak? C'est ce qu'a dit le Rabbi Shimon Bar Yochai, et ce que je vous ai dit de façon un peu directe, anti-juif, ça veut dire la compétition avec Israël en ce qui concerne l'héritage et qui nous renvoie au thème de ce verset. Est-ce que c'est suffisamment clair, Ken? On pourrait dire d'ailleurs avec beaucoup de regret que même Ishmaël dans la maison de son père est resté comme s'il n'était pas dans la maison de son père. Ça veut dire que même musulman, il y a quand même ces mêmes caractéristiques de comportement, sauf des cas exceptionnels de tzadikim, ça on en parlera tout à l'heure, il n'y a qu'à voir le comportement du musulman fanatisé par rapport au problème moral de la vie d'autrui, etc. Même pas la peine de mettre les points sur les i. Mais il y a là, je crois, une distinction extrêmement importante. C'est-à-dire, ce n'est pas que Rabbi Shimon Bar Yochai s'oppose à l'enseignement de ses maîtres, mais il le précise dans quelles circonstances ont-ils dit ce qu'ils ont dit. Lorsque Ishmaël n'est pas Bebeto chez l'Oto Tzadik. Et qu'est-ce que ça veut dire, Ishmaël Bebeto chez l'Oto Tzadik? Il a fait tshuva vis-à-vis d'Abraham. Mais il n'a pas encore fait tshuva vis-à-vis d'Yitzhak. Voilà, c'est clair jusque-là? Donc, il n'y a pas de question. Alors, la deuxième partie, sur la tshuva vis-à-vis d'Israël, nous allons le voir dans le texte immédiatement. Mais d'abord, je voulais vous lire, comme je l'ai annoncé la dernière fois, un texte du Zohar sur cette catastrophe que représente le fléchissement de la foi en Abraham et en Sarah qui ont mené à l'existence d'Ishmaël et existence irréversible. Alors, c'est un enseignement qui se trouve dans le Zohar, sur le verset 17 du chapitre 18 de Bereshit. Lorsque, en fin de compte, c'est le verset 18 du chapitre 17, je me suis dit. Lorsqu'en fin de compte, Abraham admet que c'est de Sarah que viendra le fils de la promesse, il demande une bénédiction particulière pour Ishmaël quand même. Le verset, c'est...